Bonjour à tous. Aujourd'hui, un extrait de L'étranger d'Albert Camus en lecture analytique. Un passage bien connu, un passage clé dans l'œuvre, puisqu'il s'agit du fameux meurtre de l'arabe. Le passage central, tant dans l'intensité en fait que dans le moment de basculement qu'il va provoquer, puisque l'œuvre étant divisée en deux parties, il y a l'avant et l'après. Meurtre, il y a tout ce qui se passe avant et ensuite le procès et la condamnation. Donc ce meurtre est évidemment un moment charnière dans cette œuvre. Alors, l'étranger, hein, Meursault, le protagoniste, est un personnage étrange aux yeux du lecteur. C'est un personnage insensible qui fait passer ses sensations avant toute forme de sentiment ou toute forme de réflexion. Et dans cet extrait, eh bien, il nous donne un exemple tout à fait saisissant de cette attitude déconcertante qu'il a par rapport à la vie en général, puisque dans une scène de meurtre, eh bien, normalement, on attend l'expression de certaines émotions et leur expression même paroxystique, hein, d'angoisse, de peur, de violence, etc., etc. Or ici, on va s'apercevoir que ce n'est pas du tout le cas. On a une description presque objective, hein, froide de ce qui se passe, et ça va participer encore davantage à faire que le lecteur va se poser des questions sur le personnage. Alors pour situer rapidement l'extrait, son ami Raymond a un problème avec cet arabe justement dont il est question, qui est le frère d'une de ses anciennes petites amies. Et il a failli tirer dessus, ce Raymond, l'ami de Meursault. Meursault a pris son revolver pour l'en empêcher, et il l'a gardé sur lui, et quelques heures plus tard, alors qu'il se promène seul sur la plage, il rencontre de nouveau par hasard cet arabe, et il le tue. Ce qui est déconcertant, c'est que ça se fait sans motivation apparente. On va lire cette scène tout de suite, pour la commenter après. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. Et comme alors, le front surtout me faisait mal, et toutes ces veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte, où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Alors, deux axes de lecture pour étudier cet extrait. On va tout d'abord voir que Meursault se peint comme une victime du destin, et ensuite que ce passage est un point de basculement, autant narratif que pour ce qui est de la psychologie du personnage, un point de basculement donc, du personnage. Alors Meursault se présente comme une victime du destin. Il y a la prévalence de la sensation sur la réflexion, absence de verbe de réflexion, ou seulement au tout début, à la ligne 1, hein, j'ai pensé, pour être tout de suite contré par cette conjonction de coordination, mais, et qui oppose cette pensée à des sensations. Hein, tout ce qui suit est une énumération de sensations. Il y a des verbes de sensations qui viennent ensuite les uns à la suite des autres. J'ai senti, par exemple, à la ligne 9, ça me faisait mal à la ligne 12, les veines battaient à la ligne 13, je ne pouvais plus supporter à la ligne 15. Il y a donc une incapacité hein, de la part du personnage de maîtriser sa volonté. Un petit peu plus loin, on retrouve cette même opposition entre le savoir et la sensation à la ligne 16. Il nous dit je savais, et exactement de la même façon, ce verbe de penser est contré hein, par une opposition. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Lorsqu'il tire, il nous donne l'impression que ce n'est pas lui qui agit, mais c'est son être qui se tend, nous dit-il à la ligne 37. Il utilise cette image un petit peu bizarre, un petit peu étrange. Et puis, il ne nous dit pas qu'il appuie sur la gâchette, mais que la gâchette a cédé. C'est comme si il était victime, hein, de choses qui arrivent en dehors de sa volonté consciente. Car en fait, sa volonté est bloquée. Bloqué par des sensations, et des sensations notamment dues au soleil, hein, la sueur, l'image du voile qui est utilisée à la ligne 26 et du rideau à la ligne 27, et puis il y a toute une insistance sur la souffrance, la douleur liée à la trop forte luminosité. Il nous parle de la lame étincelante, il nous dit que mes yeux étaient aveuglés un petit peu plus loin à la ligne 27, il nous parle de ses larmes ou du glaive. Hein, du glaive lumineux à la ligne 30 et d'une épée brûlante à la ligne 32. Les verbes également, hein, ronger, fouiller, dépeignent ce harcèlement quasi permanent qu'il subit de la part du soleil et dont il ne peut pas se débarrasser. La scène atteint même dans ses paroles, dans son récit, une dimension quasiment cosmique. Les images mettent en relief hein, l'hallucination de Meursault. Par exemple, le couteau se transforme hein, d'un coup d'une longue lame qu'il est en glaive et puis en épée, en une arme qui est dirigée contre lui en fait, alors qu'elle ne lui est que montrée pour le moment. Et puis les hyperboles soulignent la cruauté hein, du soleil. Il nous dit qu'il rongeait mes cils, qu'il fouillait mes yeux. Un soleil donc qui s'acharne sur lui. Et qui, il faut le noter en passant, est un soleil qui lui fait penser à la ligne 10 et 11, à celui qui brillait lors de l'enterrement de sa mère. Il y a donc une conjonction des éléments, et il nous le fait sentir particulièrement à la ligne 33 lorsqu'il nous dit tout a basculé, hein, tout, c'est-à-dire l'univers entier, et où il passe en revue, hein, de façon allusive ou de façon explicite, les quatre éléments. Donc tout a basculé, on peut imaginer que c'est la terre. La mer a charrié un souffle épais et ardent, donc l'eau. Il m'a semblé que le ciel, hein, donc l'air, s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. C'est tout l'univers qui se met contre lui pour faire basculer le personnage, voilà notre deuxième axe de lecture, et le faire sortir de l'inconscience. Le meurtre devient une agression du personnage contre l'univers entier. C'est-à-dire qu'il nous faisait sentir à la fois qu'il était victime, mais en même temps, une fois que le meurtre est réalisé, eh bien, les choses se renversent. Et il nous dit, j'avais détruit l'équilibre du jour à la ligne 43, ce qui veut bien dire qu'il commence à prendre en considération le fait qu'il a agi, qu'il a fait une action, et une action, en l'occurrence, destructrice. Il prend conscience hein, donc de ce qu'il a fait. On peut remarquer qu'il passe des verbes de sensation, le toucher, le ventre poli de la crosse, avec notamment aussi cette résonance un petit peu érotique. Toucher donc à la ligne 39, et puis des sensations à l'action, j'ai secoué à la ligne 41, et enfin passage de l'action à la compréhension, j'ai compris à la ligne 42. Donc la gravité de l'acte hein, est comprise par le personnage. Et il y a cette image de la porte, hein, du sas, du passage, j'ai frappé à la porte du malheur. Et là, c'est le sujet lui-même, c'est le je grammatical hein, qui fait l'action de frapper à la porte du malheur. Et donc de passer consciemment, volontairement, cette fois-ci, d'un état de bonheur à un état de malheur. Cette attitude est une attitude déconcertante, en fait. En lisant cette scène, on est déjà pas mal habitué, puisqu'on est déjà presque au milieu du roman. Hein. Donc, il nous a habitué à ce genre d'appréhension des choses. Mais là, on est un petit peu déconcerté, on est un petit peu sidéré par ce personnage, hein, qui n'éprouve pas la moindre compassion pour la victime. Il n'y a aucun moment, un mot, hein, pas un geste, pas un regret. Au contraire, il observe le corps comme un objet, il nous parle d'un corps inerte à la ligne 46, et il insiste aussi sur la curiosité des balles, des quatre balles mystérieuses. Hein. Pourquoi tire-t-il encore quatre balles alors que le personnage est mort? Il remarque, avec curiosité, cette curiosité du détail qu'on l'a déjà vu avoir, les quatre balles qui s'enfoncent sans qu'il y parût dans ce corps qui est déjà mort. Le personnage donc choisit d'assumer son acte, hein, puisque en fait il pourrait fuir, il n'y a aucun témoin, ça se passe en dehors de toute de tout regard. Il pourrait prétendre à un accident, il pourrait essayer de s'en sortir d'une manière mensongère. C'est en fait un petit peu le réflexe naturel qu'on pourrait attendre dans cette circonstance. Or, il n'en est rien. Curieusement, il se livre à la justice et il explique tout simplement ce qu'il a fait, ce qui est assez curieux. Et puis, en revanche, il ne va pas chercher à se disculper, il ne va pas chercher à éprouver des regrets qu'il n'éprouve pas, à exprimer des regrets ou du repentir. C'est donc un personnage qui se rapproche d'une certaine manière d'un personnage tragique, hein, puisqu'il est dans un choix, dans un, il aurait pu échapper à la justice et en fait il décide d'assumer pleinement son acte. Mais en revanche, il se distingue de ces personnages tragiques dans le sens où il n'y a pas chez lui de dilemme. C'est un personnage entièrement capté par la sensation, par le moment présent, et qui est lancé, hein, si on en croit en tout cas sa description, parce que encore une fois, c'est lui qui nous raconte tout ça, et il est possible qu'il nous raconte ces choses d'une certaine façon. Il est possible, après tout, qu'il nous mente, puisqu'il n'y a pas de témoin, il n'y a personne d'autre qui a vu la scène. Toujours est-il que c'est un personnage à la fois tragique et qui se distingue du tragique des autres personnages tragiques, et qui est un personnage emblématique de l'absurde. La conclusion de tout ceci, hein, ce personnage Meursault se montre comme une victime du destin et est ici dans cette scène à un point de basculement, puisque cette prise de conscience qu'il commence à avoir, on l'a noté un tout petit peu dans cet extrait, eh bien, il va la poursuivre dans la deuxième partie du roman, hein, qui se déroulera une année plus tard, lors de son procès. Il va passer par un processus d'évolution lent, certes, hein, très lent, mais notable, où il va prendre conscience de, oui, la gravité de ses actes ou de sa culpabilité, et ce qui aboutira à la fin, à la scène finale. Mais on en parlera dans une autre lecture analytique, ce sera un autre sujet. Au-delà de toutes les interprétations possibles qu'on peut faire de cet étrange roman qu'est L'Étranger, eh bien, cette scène, ce personnage, et cette scène en particulier, garde toute l'épaisseur de son mystère, puisqu'on ne sait pas plus de choses que ce que nous raconte le narrateur, et il se trouve que le narrateur, c'est le coupable, c'est le meurtrier. Dans un procès, pour savoir la vérité, il faut avoir recours aux témoins, mais là, il n'y en avait pas. Et donc, on est, nous, lecteurs, limités à ce point de vue qui nous est imposé et qui est un point de vue qui souligne l'étrangeté de la vie, l'étrangeté de l'existence, l'étrangeté de cet acte, le possible mensonge qu'il y a derrière tout ça, mais en tout cas, le mystère garde toute son épaisseur. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur ce passage. Je vous retrouverai pour une dernière lecture analytique de L'Étranger et on étudiera, comme je vous le disais à l'instant, la dernière scène, l'excipit, le moment de révolte du personnage. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des likes et je vous dis à bientôt.